De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parler, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, on a manqué Les Chatouilles, un des films les plus attendus de ce mois de novembre, mais il y en a d'autres et on en a vu certains qui valent le coup d'œil, mais pas tous, Marine.
Oui, alors moi, aujourd'hui, je vais faire dans l'animalier, puisque je vais vous parler de Chien de garde, un film québécois très réussi de Sophie Dupuis. Et je vais également vous parler du très attendu Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, le second volet, du coup.
Et toi, Manu?
Eh bien, un polar saletant à l'hôtel El Royal de Godard. Alors,
un autre.
Hein, pas Jean-Luc, c'est le réalisateur de La Cabane dans les bois, et puis le nouveau film de Claire Denis, High Life.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Carmen et Lola, de Arantxa Echevarria, et puis de Mon cher enfant, film de Mohamed Benatia, très bon film, et on aura l'occasion eh bien, d'entendre le réalisateur que j'ai pu rencontrer. Et puis, si on a le temps, eh bien, on fera un blind test spécial Fabrice Lucchini qu'on n'avait pas pu caser la semaine dernière. C'est Cinérama qui débute.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Sais-tu quoi? Je le sais même à qui je dois demander.
On commence donc avec Chien de garde de Sophie Dupuis. JP et son frère Vincent vivent à Verdun, quartier de Montréal, dans lequel ils font de basses œuvres pour le compte de leur oncle, dealer et malfrat notoire. Vincent est un véritable chien fou lié à sa mère alcoolique par une relation fusionnelle, voire passionnelle. Et il voit la présence de la copine de son frère chez eux comme une menace à leur équilibre. Mais d'équilibre, il n'y a guère, leur oncle les poussant à mener des actions chaque fois plus dangereuses pour les besoins de son business. Et si cela ne semble poser aucun problème à Vincent, qui se sert même de ses mission comme prétexte à laisser exploser sa propre violence, JP, lui, supporte de moins en moins cette vie et rêve d'avenir meilleur. Sophie Dupuis, une jeune réalisatrice canadienne qu'on ne connaît pas vraiment ici, s'entoure de la jeune garde du cinéma québécois inconnu en France. Et cela amène d'ailleurs, eh bien, pour nous spectateurs français, une sorte de nouveauté vraiment très agréable, une sorte de fraîcheur. Intense, résolument sombre, le film est un polar urbain réussi, moderne, quoique finalement assez classique hein, dans sa modernité, du genre à avoir une image léchée, un montage efficace, une ambiance un peu clipesque, savamment soignée à coups de ralentis sporadiques et de musique planante. C'est un cinéma jeune, péchu, qui se complaît un peu dans la violence qu'il dénonce, mais qui reste efficace. Le film instaure une tension dès ses premières images, il nous happe et ne nous lâche pas. La métaphore de la meute et du chien est filée de bout en bout, dépeignant la famille comme une meute, le quartier comme un territoire et les rapports humains comme quelque chose de totalement sensitif, d'instinctif. Alors on pourrait juste reprocher au film d'être un petit peu excessif dans sa façon de traiter la dualité entre les deux frères. Le plus jeune, interprété par le comédien Théodore Pellerin, délivre un jeu explosif à la croisée du fils psychotique de Mommy, de Xavier Dolan, et d'une version nouveau millénaire d'Orange Mécanique ou encore de Funny Games. C'est à lui qu'on doit l'énergie du film, une énergie quasi hystérique, hein, assez épuisante, mais c'est totalement volontaire. Si le scénario est assez classique, la fraîcheur associée à la noirceur du film en font une réussite. D'ailleurs, Chien de garde a été choisi pour représenter le Canada dans la catégorie meilleur film étranger cette année aux Oscars.
Et malheureusement, il n'est pas présent bien dans nombreuses salles en France. Voilà, c'est une petite exploitation. Mais vous pouvez quand même vous rendre voir donc Chien de garde. On passe maintenant à Godard, mais pas le nôtre, hein, pour un thriller débridé, celui-ci.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Monsieur Hoover, ici l'agent spécial Brodbeck. Je suis sur le site du El Royal. Nous avons un problème.
Et oui, il y a un problème, un gros même. Alors, il souffle sur sale temps à l'hôtel El Royal, un petit vent anachronique sur l'hôtel du Polar à tiroir qui fait sacrément du bien et qui nous ramène près de 20 ans en arrière où le succès de Pulp Fiction, même plus de 20 ans, hein, 24 en fait, avait entraîné dans son sillage toute une série de films en s'en inspirant jusqu'à l'overdose. Alors, il y avait Mad Dogs, Dernière heure à Denver, Snatch, Usual Suspect ou encore Petit meurtre entre amis. Alors, des films aussi différents qu'ils soient caractérisés, ils caractérisaient le courant post-moderne du polar des années 90. Mais à l'heure actuelle, les thrillers alambiqués avec une narration déconstruite, jouant sur les différents niveaux de point de vue et des personnages décalés, n'ont plus vraiment la cote, on n'en voit quasiment plus en salle. La mode est réellement passée, ce qui rend le second long métrage de Drew Goddard, après le formidable La cabane dans les bois, particulièrement sympathique.
L'hôtel El Royal est un établissement à cheval sur deux états. Vous avez le choix. Une chambre soit en Californie, soit dans le Nevada. Ce n'est pas un endroit pour un prêtre, mon père. Vous ne devriez pas être là.
Mon petit, il faudrait revoir votre argumentaire.
Je suis pas vraiment prêtre.
Ouais. Sans déconner.
Voix française de Jeff Bridges.
La voix française, oui, c'est la voix française de Jeff Bridges. Une voix qu'on entend assez souvent chez des acteurs vieillissants. Alors, la bande-annonce, elle est d'ailleurs particulièrement trompeuse, hein, promettant un film fun, référentiel et speedé. Or, Saltan à l'hôtel El Royal s'avère au contraire, en dépit de nombreux twists, flashbacks chapitrés et des jeux de miroirs distordant l'espace et le temps, une œuvre mélancolique et touchante. L'action se déroule dans un décor fascinant, donc un hôtel coupé en deux par une ligne rouge délimitant d'un côté le Nevada et de l'autre la Californie. Alors, dans cet antre inquiétant, hein, autrefois lieu de perdition de personnalités politiques et des célébrités, mais désertées aujourd'hui, des rebuts de l'Amérique bien pensantes qui ne sont pas ce qu'ils semblent être vont se retrouver pour une nuit épique. Alors, il y a un représentant en aspirateur volubile, mais qui n'est pas vraiment un représentant. Il y a un prêtre plus ou moins atteint de la maladie d'Alzheimer, une chanteuse black qui court après le succès, une jeune hippie séquestrant sa sœur et évidemment le tenancier de la boutique, un groom. Qui cache aussi, lui, bien des secrets. Avec, au cœur du récit, hein, lors d'un prologue très efficace, une mallette d'argent cachée sous les planches d'une des chambres de l'hôtel. Alors, dans ce lieu plein de chausse-trappes et de faux-semblants, qui cache bien des mystères, jusque dans son architecture inquiétante et désuète, tout ce joli petit monde va se croiser, s'affronter dans un opéra de violence cathartique plus touchant que réellement jouissif. Alors, en situant le film durant l'été 69, hein, Drew Goddard a la bonne idée de ne pas le surcharger en références contextuelles et de se concentrer sur son histoire et ses personnages qui parviennent à exister. Alors, ce qu'il perd en rythme et efficacité le gagne toujours en densité et atmosphère. L'hôtel se transforme progressivement en une sorte d'enfer doré, hein, engloutissant tous ses personnages. L'entrée en scène vers les deux tiers du métrage d'une figure luciférienne, alors sorte de gourou maléfique génialement interprété par Chris Hemsworth, Thor, bien sûr. Alors, relance l'intérêt de ce thriller tordu, inégal, beaucoup trop long, hein, 2h22 quand même, mais rempli d'idées folles et porté par une réalisation inspirée. La photographie crépusculaire, tout en couleurs sombres et brûlantes, elle est magnifique. Alors, ce jeu de massacre au dialogue cinglant et à la bande son impeccable, alignant les tubes des années 60, ne serait rien sans l'interprétation habitée de Jeff Bridges. Parfait en faux prêtre qui perd la boule, mais aussi par une Dakota Johnson convaincante, un caméo de Xavier Dolan, méconnaissable en manager, et Cynthia Erivo, que je ne connaissais pas, très émouvant dans le rôle d'une chanteuse soul déchue, la seule au fond incarnée une silhouette ne se vautrant pas dans un double jeu. Alors, Saltan à l'hôtel El Royal est également sous-tendu par un sous-texte politique virulent évoquant les rêves brisés des années 60 et la violence d'un pays corrupteur et corrompu croulant sous les scandales à travers un divertissement plus retors que prévu mais jamais prétentieux, s'éloignant aussi de ses maîtres un peu encombrants, notamment bah, évidemment Tarantino mais aussi les frères Cohen. Enfin, je trouvais que c'était une excellente surprise si on accepte un rythme parfois un peu lent, mais cette lenteur va très bien au film en fait.
Eh bien, merci. Et on passe maintenant à l'interview de cette émission, celle de Mohamed Benatia, qui nous propose eh bien, son deuxième long-métrage, Mon cher enfant.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Avec Eddie, un vent de liberté, le Tunisien Mohamed Benatia avait fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma en multipliant les prix. Et son deuxième long métrage est donc attendu au tournant. Alors, dans son premier film, nous étions dans le portrait de la Tunisie après le printemps arabe. Dans son deuxième long métrage, le réalisateur explore à nouveau un thème d'actualité, à savoir le départ de jeunes Tunisiens pour la Syrie afin de se battre aux côtés de Daesh. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Mohamed Benatia ne nous place pas du point de vue de celui qui fait le choix de partir, mais du point de vue des parents, de ceux qui restent, de ceux qui sont lâchés, de ceux qui pleurent, de ceux qui ne comprennent pas, sans toutefois en venir au pathos. Ainsi, nous sommes à Tunis, à notre époque, aux côtés de Riyad, un agent portuaire qui s'achemine alors doucement vers la retraite. Il est perturbé car Sami, son fils de 19 ans, est victime de violentes migraines, alors inexplicables. Les parents tentent bien de trouver un remède et se résigneraient presque à admettre, comme on leur dit, hein, que c'est le bac qui stresse leur enfant. Alors, on apprendra peu à peu que cette migraine est une sorte de métaphore et qu'elle couvre bien autre chose. Sami disparaît du jour au lendemain, pour la Syrie et pour y faire le djihad. Une déflagration hein, pour ce couple de la classe moyenne qui se demandait quelques heures avant d'apprendre son départ comment ils allaient pouvoir offrir à leur fils des études décentes. Si Mohamed Benatia nous emmène un temps en Turquie et en Syrie, le temps d'un songe, c'est surtout pour questionner le personnage principal. Comment leur fils a-t-il pu faire ce choix? Qu'est-ce qu'ils ont manqué, hein, les parents? Peuvent-ils réparer ce qui semble irrémédiable? Mais jamais il ne déconstruit le parcours du fils et les raisons sociétales d'une telle fuite. Tout cela reste hors champ et ferait sûrement l'objet d'un documentaire. Alors, en suivant le père qui veille, s'inquiète, puis doute, le réalisateur questionne un modèle, celui de nos sociétés où travail et famille eh bien, sonnent comme des promesses de bonheur, voire le seul accomplissement possible. On écoute maintenant eh bien, le réalisateur Mohamed Benatia.
On parle à juste titre des raisons du départ des jeunes, de Daesh, de ce qui se passe, c'est très important. Le film, forcément, il parle aussi de ça. Mais le sujet principal, pour moi en tout cas, se pose ailleurs. La personne du père qui, du coup, reflète un peu ce malaise un peu mondial, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas anodin de t'avoir mis deux moments dans le film où ils font leurs courses dans cet hypermarché assez grand, assez imposant. C'est pas anodin d'avoir fait de cette famille une famille... Même la mise en scène, on me parle de ce côté minimaliste, mais c'est juste pour encore souligner le noyau et ce cocon familial pour vraiment dire qu'elle est réaliste, cette famille, elle est bien tunisienne, elle est ancrée dans ce contexte-là, mais elle peut être dans une autre banlieue française ou autre, c'est-à-dire pour élever un peu le débat et dire que c'est quelque chose qui nous ressemble tous. Que ce n'est pas quelque chose d'exotique ou de culturel ou de religieux, encore une fois. Ce que dit le film, c'est qu'on a droit à sa part de lâcheté, même de peur. On a droit à être contradictoire, à ne pas être tout le temps courageux tel qu'on l'entend. Le fait d'être égoïste, de vouloir ses enfants pour soi et qu'ils fassent les choses qu'on n'a pas pu faire nous, ça a été traité, ça a été vu et archivé. Mais là, c'est pour ramener l'interrogation à soi. C'est-à-dire, est-ce que le bonheur passe par les enfants? Est-ce que notre existence et notre raison d'être passent par notre paternité ou maternité, ou passe par aussi, en parlant du couple, de notre statut de partenaire femme ou homme. C'est plus ça, c'est-à-dire... Et c'est pour ça que le père arrive à rentrer en ayant un regard un peu plus noir sur sa vie, parce que il se détache du travail et de sa famille et de sa position en tant que père. Et du coup, qu'est-ce qui lui reste à lui? C'est des questions plus existentielle par rapport à sa propre vie à lui. Caméra à l'épaule, c'était clair depuis le départ, mais les plans séquences ne l'étaient pas. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du découpage que ça maintenait une distance entre la caméra et les personnages pour que de un, on ne les juge pas. Mais on ne souligne pas non plus une réaction avec des gros plans, de dire « Ah, lui, il a voulu penser ça par rapport à ça. » Que ça soit neutre et que dans ce tableau, le spectateur... Je préfère faire confiance déjà au spectateur pour qu'il se fasse sa propre opinion et non pas guider, surtout qu'il n'y a pas lieu d'accentuer un parti pris par rapport à un autre, mais plutôt souligner encore plus la complexité du sujet et le côté ambigu.
Film tout en subtilité, mon cher enfant, et c'était Mohamed Benatia, son réalisateur, que nous écoutions. Le film est dans les salles depuis le 14 novembre. C'est le cas aussi eh bien, du deuxième volet des aventures de Norbert Dragono. voilà, les animaux fantastiques que Marie n'a pas vraiment apprécié.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Donc, ce que Monsieur Dragono redoute par-dessus tout, c'est...
de devoir travailler dans un bureau, monsieur.
Allez-y, Norbert.
Moi, ce que je redoutais par-dessus tout, c'était de devoir aller voir ce film. Mais bon, j'ai pas eu le choix. Donc, le jeune sorcier Newt, dont le prénom devient Norbert en français, très sexy, doit à nouveau affronter le terrible sorcier Grindelwald qui s'est échappé de prison en comptant naturellement sur tous ses amis magiciens. Et bien évidemment, comme le titre l'indique, sur de nombreux animaux fantastiques, tous plus mignons les uns que les autres.
La magie s'épanouit seulement chez des êtres d'exception. Pourtant, nous devons nous terrer dans l'ombre. Mais les usages anciens ne nous conviennent plus.
Je suppose que vous avez eu vent des rumeurs. Grindelwald a eu une vision. Il s'est vu régner en maître sur le monde des sorciers.
Et vous sollicitez mon aide pour le pourchasser ?
Monsieur Dragono, croyez-vous que Dumbledore pleurera votre perte ?
Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Ce film n'a aucune âme. Peut-on appeler cela un film ? Vraiment, je pose la question. Ce n'est qu'un enchaînement d'images destinées à prolonger l'adaptation d'un livre. Il n'y a aucune unité, il n'existe pas en tant que film à part entière. C'est la suite du premier volet des Animaux Fantastiques, comme s'il s'agissait finalement d'un morceau d'une série. Il n'existe pas en lui-même. D'ailleurs, dans sa construction, il est exactement pensé comme un épisode d'une série, avec plusieurs histoires montées en parallèle. Aucune scène ne dure plus de quelques minutes, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à l'action, hein. Encore moins à des dialogues intéressants, et alors encore moins à un quelconque jeu d'acteur ou à une quelconque émotion. De toute façon, peut-on parler de mise en scène lorsque tout est retravaillé en post-production ? Alors quitte à passer pour une grosse réac, hein, moi je plains vraiment ces pauvres comédiens qui jouent face à du rien, devant des fonds verts, même si j'imagine que leur salaire comble pas mal le vide. En parlant de comédiens, on peut néanmoins souligner le point positif du film. Les Animaux Fantastiques signent le retour de Johnny Depp dans un rôle de méchant sobre et efficace, le Grindelwald, j'aurais jamais réussi à bien le prononcer, du titre. Lui qui avait atteint quand même, il n'y a pas si longtemps, un stade de cabotinage hors du commun. Alors David Yates, le réalisateur, a expliqué qu'à travers le personnage de Grindelwald, le film avait une portée politique, puisqu'il parle de l'équilibre social fragile qui peut être à tout moment remis en cause par des gens qui font la promotion de la peur et qui dénigrent la différence et la diversité. Waouh, bravo David, quelle audace. Vraiment, un tel message dans un film grand public, c'est pas du tout ce qui se passe dans tous les blockbusters depuis 10 ans. Vraiment bravo. Les Animaux Fantastiques sont donc un film politique. D'ailleurs, lorsque je l'ai vu en avant-première, autant vous dire, c'était un véritable meeting de jeunes personnes très engagées. Pour vous dire, j'étais avec un ami dont la tête apparemment gênait la spectatrice de derrière. Et pour lui demander de se décaler, elle lui a tapoté sur l'épaule avec une baguette magique. Non, je vous jure que c'est vrai, elle avait une baguette magique.
Donc il faut des accessoires. Voilà,
les Animaux Fantastiques, à voir avec votre baguette magique ou plutôt à ne pas voir, vraiment, vous pouvez faire l'impasse.
Eh bien, merci Marine. Homosexualité et communauté gitane font-ils bon ménage ? C'est ce qu'on va voir avec Carmen et Lola.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
Carmen et Lola, les homonymes du titre du film d'Arantxa Echevarria, sont deux adolescentes qui vivent dans une communauté gitane de Madrid. Être une fille dans une telle communauté ici comme ailleurs, c'est suivre un modèle. Le modèle, eh bien, c'est se marier plus tôt que tard, savoir tenir sa maison, élever ses enfants, bref, devenir une femme au foyer. Vaguement anachronique quand même. Hein. Alors Lola a deux problèmes avec ça. D'une part, elle souhaite faire des études quand ses parents s'en soucient peu. Et puis, elle aime les filles. Ça fait deux tards hein, pour une communauté qui n'est pas réputée pour son ouverture, mais plutôt pour son intransigeance avec la loi de la famille. Et la famille, eh bien, on voit bien ce que ça suppose. L'homosexualité est un sujet tabou. Alors si ça doit se savoir, la honte s'abat sur le nom de la famille hein, pour les siècles et les siècles. Ses parents ne voient rien venir, alors que sa mère l'incite à aller rencontrer des garçons. Eh bien, Lola préfère se rendre avec un sentiment teinté de honte hein, quand même au cybercafé pour tenter de discuter sur des chats lesbiens. On voit bien que du désir à son accomplissement, eh bien, il y a un gouffre. Mais à la faveur eh bien, d'un orage sur un marché, Lola rencontre Carmen, une belle fille grande, sexy, exubérante et vive. Elle croit en tomber amoureuse, mais Carmen, approchant la majorité, eh bien, est promise au cousin de Lola.
«
Alors rien n'apparaît simple, hein, et pourtant ces deux adolescentes vont s'émanciper autrement qu'en suivant le chemin qu'on a tracé pour elles. Alors on est très loin de l'ambiance à la Tony Gatliff ou à l'agent Charles Hu, qui sont deux réalisateurs, hein, qui, dans des styles opposés, nous immergent dans la communauté gitane, en tout cas la française. Et pour nous raconter, eh bien, ce déchirement, Arantxa Echevarria choisit des tons colorés, la lumière, le soleil, de quoi éloigner tout pathos et atténuer le drame pour garantir un film vif où la mise en scène appuie les moments, eh bien, où les deux filles trouvent une forme d'épanouissement, s'émancipent, non sans douleur, cris, joie et plaisir. Alors dans cette histoire singulière, la romance apparaît vite étouffée par la réalité d'un milieu. La réalisatrice tâtonne alors, bien, quand il s'agit de clore son récit entre éclat dramatique et fin heureuse. Mais en ne laissant pas végéter les deux héroïnes dans cette communauté où les faux pas sont jugés sans détour, en caractérisant suffisamment ces personnages, eh bien, elle parvient à donner un souffle d'espoir. Alors on imagine bien que la réalité est tout autre, mais la réalisatrice ne donne pas dans le documentaire, il faudra l'admettre. Toutefois, l'autre aspect de ce drame léger, c'est que Arantxa Echevarria a choisi de ne prendre que des gitans, hein, pour son casting, ce qui a compliqué son projet, mais a contribué aussi à une sorte de médiation avec la communauté gitane. Contrairement à Jean-Charles Hu en France, que j'ai cité tout à l'heure, eh bien ici le casting a mis en lumière deux ravissantes jeunes femmes aux mensurations de magazines, une manière non plus de ne pas se focaliser sur la communauté dans laquelle elle nous plonge. Cette histoire d'amour impossible est avant tout, eh bien, une aubaine pour le cinéma. Carmen et Lola de Arantxa Echevarria est un film qui est en salle depuis le 14 novembre.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors, si je vous dis 48 ans de carrière, 78 films, téléfilms et séries tournées, un César dans un second rôle et une coupe Volpi, c'est à Venise. De qui il s'agit? Parce que je ne vous l'avais pas dit. Fabrice Luchini, eh oui.
Ah, d'accord. Mais bien sûr.
Ah oui, surprise. Évidemment. Blind test Fabrice Luchini. Fabrice Luchini qui est actuellement dans Un homme pressé, film de Hervé Mimram, qui n'est pas forcément une réussite, mais on va quand même jouer un blind test. Donc, 5 extraits et il faut découvrir le titre des films.
Ne partez pas, très cher ami. Soyez heureuse cette nuit. Consolez-vous, ne pleurez plus. Étendez-vous donc là-dessus. Ôtez les larmes de vos yeux. Dieu, s'il lui plaît, vous fera mieux demain que vous ne m'avez dit. Près de moi, venez en ce lit. Il est large assez pour nous deux.
Alors, c'est pas forcément son premier film, ça a été trouvé.
C'est Romère.
Oui.
Perceval, le Gallois, d'ailleurs.
Perceval, le Gallois, effectivement. D'Éric Romère, un film de 78 qui a fait 144 000 entrées. Pour
assez étrange d'ailleurs, film, très étrange.
Oui, très étrange. Et pour quelqu'un qui est habitué au box-office, on verra que ce sont 144 000 entrées est bien faible.
La glycine ! Isabelle ! Isabelle ! La glycine ! La glycine ! Bon, enfin, vous allez vous rompre le cou, là, Isabelle !
Mais non, André, voyons. La glycine ?
Elle est immense ! Elle a pris 2 mètres !
Voilà un an que vous ne l'aviez vu. Tout pousse, André. Tout pousse.
Valeria Bruni Tedeschi et en compagnie donc de Fabrice Luchini, ça a été trouvé évidemment.
Maloute de Bruno Dumont.
Avec une interprétation assez étrange, hein, puisqu'elle se modifie à l'intérieur du film.
Même physiquement. Hein.
Oui, il est bossu, un coup il est plus. Enfin bon, c'est assez étrange. Et Fabrice Luchini avait même avoué en fait qu'il n'avait pas lu le scénario. Au bout d'un moment, il s'était dit je ne vais pas lire le scénario. Donc
il vaut mieux parce que c'est pas sûr qu'il aurait accepté sinon.
Voilà, il comprenait pas le film. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'était 561 000 entrées en France. Troisième extrait.
Il fait bien l'amour.
Je sais pas s'il fait bien l'amour, mais j'adore le faire avec lui.
Pourquoi ?
Tu veux savoir ?
Oui.
D'abord, il m'encule et toi, tu m'enculais jamais.
Moi, je savais pas que tu aimais être enculé.
Moi non plus. Mais juste un truc, ça m'a un peu terrifiée, c'est qu'en jouissant, il tire la langue.
Il tire la langue ?
Oui, mais en fait, je trouve ça mignon maintenant, tu vois. Maintenant, je trouve ça mignon, en fait.
Alors, ça a été trouvé, évidemment, Manu.
Et c'est Rien sur Robert de Pascal Bonitzer.
Oui, tout à fait. Alors bon, évidemment, là, on entend surtout Sandrine Kiberlin qui fait... Je trouvais que le dialogue était intéressant et la scène est plus longue, hein, elle va plus dans les détails. En fait, voilà, donc Rien sur Robert, Pascal Bonitzer, 590 000 entrées en 98.
C'est une pute.
Arrête avec tes jugements, petit bourgeois.
Mais moi, je suis pas un petit bourgeois, hein. Je suis un nouveau riche. Ça n'a rien à voir. Je peux t'assurer que je les reconnais, moi, les aspirants nouveaux riches. Je suis curieux de voir si elle va arriver à tirer quelque chose de papa. C'est un coriace. Elle doit avoir de la ressource. Ça va être intéressant à observer tout ça.
Bonjour les préjugés.
Mais je t'assure que cette fille est prête à planter ses dents dans le gros gâteau du capitalisme.
C'est joli dents.
C'est très joli dents, très joli dents. C'est une bombe. C'est une bombe. C'est une bombe avec l'idéologie de Milosevic.
Et alors ? On est censé aider les gens dans la merde, qu'est-ce qu'ils pensent comme nous ?
Alors, il est question de mariage blanc avec une jeune femme moldave. Tu as sans doute vu le film puisque tu en parlais.
Bah, je pensais à la fille de Monaco avec Louise Bourgoin parce que qui était aussi une michetonneuse dedans, mais oui. Non.
Non, sinon j'aurais mis un autre extrait où on entend Louise Bourgoin. Là, c'est Les Invités de mon père de Anne Leny, qui est une comédienne. Film de 2010 et on monte dans les entrées. J'ai fait le blind test comme ça. Là, c'est 841 000 entrées.
Cesse de te buter, on est dans l'impasse, il faut négocier.
Vous pourrez dire de ma part, aux délégués syndicaux, que s'ils veulent toucher leur mois de congé payé, eh ben il fera bien de reprendre le travail dès demain, parce que s'ils veulent gagner plus, il faudra travailler plus. Vous entendez? On me croyait fini, lessivé, ma famille était prête à brader l'usine. Mais moi je vais demander au tribunal la levée des piquets de grève, et je vais vous montrer, moi, ce que c'est. Ce que c'est qu'un patron qu'on a deux.
Alors, ça a été trouvé.
Est-ce que ça serait Potiche d'Ozon ?
Oui, bravo. Avec Catherine Deneuve, qu'on a vaguement entendu. Et là, c'était 2,3 millions d'entrées en France en 2010. Alors, par contre, on termine juste. Alors là, j'ai donné le nombre d'entrées, mais c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées. Il y a un film qui a fait 2,8 millions d'entrées. Film de 85, dans lequel il joue. Lucini, c'est lequel ? C'est son record.
Ah bon ?
Oui.
Non, c'est pas le film de... Non, je vois pas.
C'est Prof.
Je vois pas. Prof, ouais. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce qu'il y avait aussi La Discrète qui avait bien marché, c'est... non ?
Oui, mais non, mais c'était beaucoup moins La Discrète. C'était 1 400 000. Voilà, j'ai réponse à tout. Vas-y, un autre titre. Non.
Avec voilà. Une feuille, c'est facile.
Oui. Ainsi s'achève ce blind test spécial Lucini. Et on termine avec Claire Denis.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors après le lumineux et verbeux, un beau soleil intérieur, Claire Denis retrouve Juliette Binoche pour sa première incursion dans la SF, genre qui ne réussit pas souvent aux cinéastes français, par manque alors soit d'ambition, soit de moyens, soit les deux. D'ambition, High Life n'en manque pas, et se trouve même par une séquence un peu inédite, d'une profonde singularité. Un bébé dans son petit parc communique avec son père, qui est à l'extérieur, sur le vaisseau, en train de le réparer. Alors on a vu beaucoup de choses insolites dans l'espace, où personne ne vous entend crier, des monstres difformes, des navigateurs à grandes oreilles, des mercenaires de l'espace, des entités abstraites, mais rarement, voire jamais, un bébé batifolant dans son parc, l'air heureux. Alors pour ajouter un peu d'étrangeté et une touche écolo, on a aussi un jardin botanique évoquant celui du très beau Silent Running de Douglas Turnbull, qui est filmé en quelques plans sidérants magnifiant cet écosystème. Alors ce début apaisant et trompeur, d'où vient ce bébé, comment a-t-il été conçu et pourquoi ? C'est un peu cette histoire que Claire Denis espère nous raconter, nous plongeant quelques années en arrière dans une ambiance clinique est quand même assez putrescente. Alors, flashback et flash-forward se télescopent au cœur d'une intrigue opaque et mutique. Alors, les dialogues incessants écrits par Ango dans le précédent film laissent place à un univers taiseux et elliptique et malheureusement inutilement hermétique, révélant alors l'impuissance créatrice d'une cinéaste incapable de réinventer un genre qui demande quand même un minimum de connaissances. Alors, vêtue d'une blouse d'infirmière, Juliette Binoche embarque avec elle dans un vaisseau rectangulaire au design postmoderne des repris de justice condamnés à perpétuité. Alors, parmi eux se trouve donc Mont, le papa miraculé du prologue, gravite autour de ce criminel qui a buté sa femme pour sauver son chien, c'est dit dans le film. Une galerie de sociopathes tous plus timbrés que les autres, forcés de cohabiter entre eux. Et on se dit, quelle drôle d'idée tout de même, de mettre comme ça des cinglés un peu entre eux, d'autant que personne ne semble les surveiller, ce qui paraît pas très vraisemblable. Mais bon, la mission de ces pauvres individus reste pour le moins absconse, disons qu'ils doivent trouver de nouvelles sources d'énergie pour sauver une humanité en voie d'extinction. Le voyage s'enlise, les pulsions sexuelles animent cette horde de délinquants, les tensions s'intensifient pendant que l'infirmière inquiétante essaie de trouver le sperme idéal dans un but reproductif tout aussi idéal. Mais dans quel but ? On ne sait pas, les scénaristes ne tentent même pas d'apporter ne serait-ce qu'un début d'éclaircissement, à nous de nous débrouiller. Alors pour se distraire aussi, l'infirmière va de temps en temps se détendre dans la fuckbox, un bésodrome rappelant en mode mineur les délires cronenbergiens. Alors sauf que visiblement Claire Denis ne comprend pas grand chose à la science-fiction, en refusant toute orientation philosophique, en restant quand même blottie dans une sphère autorisante, niant la moindre explication, elle tourne le dos à l'essence même d'un genre qui, au meilleur de son inspiration cinématographique et surtout littéraire, invente des univers, réfléchit à des nouveaux concepts, délire sur des théories un peu farfelues. Rien de tout ça dans High Life qui se pose en fable pénible sur la déshumanisation et la perte de désir. Alors la sensualité des meilleurs films de la réalisatrice, parce que j'aime énormément Claire Denis en plus, hein, laisse place à un objet formel, hein, faussement provocateur et désespérément aride, ne laissant pas la moindre trace d'émotion surgir de l'écran. Alors malgré la beauté de certains cadrages et l'envoûtante musique de Stuart Staples, High Life échoue dans son ambition de SF adulte à rejoindre même de très loin ses modèles, alors Solaris et 2001 l'Odyssée de l'espace. Le film ne devient intéressant que dans son dernier quart d'heure lorsqu'il se confronte à un vrai sujet intime et puis personnel pour la réalisatrice, hein, récurrent aussi, les relations père-fille. Alors Claire Denis touche du doigt le thème de l'inceste avec une vraie délicatesse, posant alors de bonnes questions sans chercher la provocation gratuite. Les rapports ambigus entre Pattinson et sa fille s'échappent d'une morale qui n'existe plus et deviennent du coup extrêmement troublants. Enfin, il était un peu temps d'avoir quelque chose d'un peu original dans le film. Au final, c'est une énorme déception, hein, empêtrée dans un imaginaire visuel conventionnel, malgré la splendeur de certaines images, et puis la participation du designer contemporain islandais Olaf Eliasson, qui a composé quelques objets. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais voilà, c'est un petit peu décevant.
Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Non, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on vous parlera des Filles du Soleil de Yeomedin. Et puis, on écoutera Michael Herz, réalisateur de Amanda, et puis plein d'autres films.
Bien film coréen, After Death.